Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Famille épanouie. Vous êtes ici pour parler de parentalité, pour pouvoir améliorer les relations avec vos enfants grâce à des astuces et des concepts simples à mettre en place. Dans ce podcast, on parle aussi parfois d'organisation, de bien-être, de développement personnel, mais toujours sur un fond de parentalité parce que je m'adresse ici à la maman que vous êtes. Alors, installez-vous confortablement, peut-être que vous êtes en train de plier du linge, de préparer la cuisine, d'aller au travail, de vous relaxer dans un bain. Bref, peu importe ce que vous faites, bienvenue ici. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et qui va prendre de plus en plus d'importance d'ailleurs de nos jours. C'est est-ce qu'on doit donner, offrir, permettre à son enfant d'avoir un téléphone portable. En fait, l'idée, elle est venue parce qu'il y a quelques semaines, je vous ai proposé un podcast sur l'argent de poche et vous l'avez déjà adoré. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez aller le chercher dans mes épisodes précédents. Vous le trouverez facilement. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit, Amélie, on aimerait bien que tu t'exprimes sur est-ce que notre enfant doit avoir un téléphone portable. Alors, je me suis dit que ça pouvait être un bon épisode de podcast. Alors, avant ça, je précise que je ne vais pas avoir votre bonne réponse, d'accord? Moi j'ai la mienne, je vais vous l'expliquer, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense ainsi, pourquoi j'agis ainsi, et... enfin, bref, vous allez tout comprendre, mais évidemment qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, comme à chaque fois d'ailleurs, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse, parce que on fait les choses parce qu'on les ressent, parce qu'elles sont alignées avec nos principes, avec nos valeurs, et donc ce qui va être aligné à nos principes et nos valeurs, à nous, c'est pas forcément aligné avec les principes et les valeurs de son voisin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il n'y a que des choses qui sont cohérentes avec là où on veut aller. Et ça, c'est important parce que, d'une manière générale dans la vie, ne faites pas les choses parce qu'on vous a dit de le faire ou parce que vous pensez que c'est bien de le faire, mais parce que ça résonne profondément en vous. Et d'ailleurs, ce sera beaucoup plus facile d'une manière générale, de tenir une décision lorsqu'elle est alignée profondément avec ce que l'on veut être, ce que l'on veut faire, ou même tout simplement la projection positive que l'on a de soi, que si on fait les choses par mimétisme ou parce qu'on pense que ça va être bien, qu'on considère que les autres vont plus nous aimer pour ça, ou que ça correspond à un schéma bien pensant de fonctionner. Ça c'est dit, c'est important de le faire, donc vraiment gardez toujours en tête qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, de fonctionner, de penser, d'être, etc., etc. Que ça nous appartient à nous et que notre vérité n'a pas besoin d'être défendue. Alors maintenant, qu'en est-il du téléphone portable? Alors déjà j'ai envie de préciser que pour moi il y a deux façons d'avoir un téléphone portable, enfin en tout cas d'utiliser un téléphone portable. Ça peut être sur des enfants qui vont l'utiliser à la maison, donc ils vont peut-être utiliser un téléphone qui appartient à leurs parents ou un ancien téléphone qu'ils peuvent utiliser mais qui reste à la maison et qui va être partagé entre les différents enfants. Et le téléphone qui va appartenir à un enfant. Et peut-être même que cet enfant va avoir un petit forfait pour son téléphone, pour pouvoir l'utiliser à l'extérieur de la maison. Donc vous voyez déjà, ça c'est deux façons différentes d'utiliser un téléphone portable. Nous par exemple, donc à l'heure actuelle aujourd'hui, mes enfants ont 11, 8 et 6 ans. Ils utilisent deux téléphones portables à la maison. En fait, ce sont nos anciens téléphones que l'on n'a pas vendu, que l'on n'a pas jeté, bref, que l'on a gardé, et qui peuvent utiliser à la maison. Parfois aussi, on les emmène quand on est en vacances, et sur la route, on peut leur faire des petits partages de connexion, et ils peuvent jouer à des petits jeux en ligne, ou regarder des petites vidéos sur Disney+, Netflix, ou d'autres plateformes de streaming dont on a les codes, les accès. Donc ça, c'est possible, mais du coup, il n'y a pas de téléphones attitrés, ce ne sont pas des téléphones avec des forfaits, donc il n'y a pas de numéro de téléphone associé, ce qui veut dire pas de SMS, pas de WhatsApp, voilà, c'est vraiment juste, on va dire, comme une toute petite tablette familiale qu'on peut emmener ou que les enfants peuvent avoir à disposition, ok? Donc ça, c'est ce que nous faisons actuellement. Aujourd'hui, donc mes enfants n'ont pas de téléphone personnel. Pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas ? Alors, ils n'en ont pas parce que, déjà d'une part, pour moi, le téléphone portable, il est intéressant quand l'enfant va être dans un autre lieu que ses parents et qu'il va devoir se débrouiller tout seul pour faire certaines choses. Et que du coup, le téléphone portable devient un moyen d'avoir un lien avec son enfant et que pour lui aussi, il est un lien avec nous. Si jamais il y a un problème, il faut savoir que les enfants en quête d'autonomie vont peut-être rencontrer des embûches. Parfois, ils vont pas réussir à faire quelque chose et donc ils vont nous demander. Alors quand ils sont à la maison, c'est facile parce qu'on est là. Mais imaginez que votre enfant soit dans le bus ou soit, je sais pas, à la gare ou je ne sais où et qu'il veut vous demander quelque chose que vous n'êtes pas là. Eh bien, le téléphone portable devient intéressant parce que l'enfant a la possibilité de nous contacter et donc de nous demander de l'aide, de nous demander un support. On va pouvoir l'aider, on va pouvoir le guider, on va pouvoir le soutenir. Donc ça, c'est intéressant. Mais lorsque les enfants, en tout cas les enfants de mon âge, n'en ont pas besoin, ne sont pas amenés à faire des choses tout seuls de cette manière-là, moi je vois pas l'utilité. Donc très clairement, tant qu'ils n'en auront pas besoin, ils n'auront pas de téléphone portable. Par contre, il y a quand même une métrique qui fait que aujourd'hui, il y a un moment, l'enfant peut vraiment en avoir besoin. Et je pense, on va voir si l'avenir me donne raison, mais c'est à partir de la sixième. Pourquoi ? Parce que à partir du collège, les enfants vont pas aller peut-être au même endroit physiquement que leurs frères et sœurs. Ils vont changer d'école et donc ils vont aller dans une autre école. Et peut-être que justement, par rapport à ça, ils vont devoir rentrer en bus. Ou peut-être aussi que, comme ils auront des horaires parfois décalés, des fois ils vont commencer à 8h, d'autres fois à 9h, peut-être des fois à 10h, et puis à l'inverse, finir à 13h, 14h, 15h, 16h, je ne sais pas quelle heure, on va pas pouvoir faire le taxi. Nous, en tant que parents, on va pas faire plusieurs allers-retours pour chercher des enfants à maternelle et au primaire, qui sont souvent au même endroit, et puis ensuite faire un autre aller-retour une heure après ou une heure avant pour aller chercher ou déposer son enfant au collège. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, à partir du collège, ça peut être intéressant que l'enfant ait un téléphone portable parce qu'il va être amené à faire des trajets seul. Et donc, peut-être qu'il aura besoin de nous, ou même nous, pour se sécuriser, on aimera, ou en tout cas on se sentira mieux si on sait que notre enfant est joignable. Un truc tout bête aussi avec le téléphone portable, c'est que vous savez, il y a la fonction localisation, géolocalisation. Ce qui veut dire qu'on peut savoir en temps réel où est notre enfant, je sais pas pourquoi je dis éléphant. Et du coup, faut pas que ça devienne évidemment du flicage. Je dis pas ça pour ça, faut garder une relation saine, nous-mêmes, avec notre enfant, et pas notre éléphant. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de savoir où est-ce qu'il est, même si par exemple il arrive en retard, imaginons qu'il a raté son bus, au lieu de le saouler et de lui envoyer un message « T'es où ?» et qu'il va être agacé à la fin, une petite géolocalisation, ça permet de voir qu'il est bien en train de rentrer ou que il est sur le trajet du retour ou à l'arrêt de bus ou chez un copain ou je ne sais où. Et du coup, on est rassuré, ça nous permet de pas le frustrer, encore une fois, dans sa quête d'autonomie. Bon, je mets une grosse nuance, un gros bémol ici, parce qu'il faut que ça reste sain. On n'est pas là pour fliquer l'enfant, on n'est pas là pour « alors t'étais où ?» et puis de vérifier si ce qu'il dit, ça correspond avec la géolocalisation. Enfin, là vraiment, je vous parle d'une utilisation hyper saine de la géolocalisation pour juste ne pas inquiéter l'enfant ou ne pas saouler l'enfant. Mais quand on veut savoir où est notre enfant, le meilleur moyen d'obtenir une réponse, c'est de lui demander. Pas de le faire derrière son dos ou de manière détournée. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est malsain. Et ça, ça va entraîner des gros, voire des graves problèmes quand l'enfant va comprendre ce que vous êtes en train de faire. Voilà, ça c'était juste une aparté, c'est peut-être même pas un sujet. Mais je préfère le dire parce que il y en a qui peuvent l'interpréter de cette manière-là. Et donc, je veux juste que ce soit bien clair que l'idée n'est pas de fliquer l'enfant, de le surveiller ou autre, mais bien au contraire, de juste de se rassurer, de savoir où il est avant de l'inquiéter ou de le saouler. Donc, vous voyez, ça va être intéressant. Et donc, moi, je pense, on va voir, j'ai la chance, on va dire, que mon enfant, Arthur, mon aîné, est né en octobre. Donc, en fait, l'année prochaine, il va rentrer en sixième. Puisque, non, alors, normalement, il devrait être en sixième, hein, puisqu'il a 11 ans. Mais comme c'est sa première année d'école, j'ai pas voulu le mettre dans le grand bain tout de suite et donc le faire aller en sixième. J'ai préféré qu'il fasse une année de CM2 pour qu'il s'acclimate à l'école et qu'il en comprenne le fonctionnement. Alors si on avait été en France, peut-être que je l'aurais fait passer en sixième, mais là en l'occurrence il y avait beaucoup de choses à gérer pour lui. Il y avait l'entrée en sixième, l'expatriation et toute la découverte qui correspondent à ses nouveaux modes de vie. Donc je voulais pas rajouter quelque chose en plus à gérer pour lui. Je préférais qu'il prenne ses marques avec des enfants un petit peu plus jeunes que lui et donc avec lesquels il va se sentir en confiance parce qu'il verra que peut-être qu'il a un petit peu plus de connaissances, voire c'est pas non plus tout à fait sûr parce que notamment sur les enseignements théoriques comme le français, Arthur avait quand même quelques lacunes, et notamment dans sa manière de rédiger. Donc quand on est en sixième, on a besoin de prendre des notes de manière quand même plus ou moins autonome, et puis il faut avoir aussi une lecture solide, être capable de vraiment bien écrire et bien lire, chose qui était encore fragile pour Arthur. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai préféré le mettre en CM2. Et d'ailleurs, choix qui a été validé par l'école dans laquelle nous avons mis les enfants. Mais donc l'année prochaine, il sera en sixième, et comme il est du mois d'octobre, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir laisser la place sur septembre pour voir comment ça se passe, et me laisser un joker s'il y a besoin de lui offrir un téléphone portable à son anniversaire, donc en octobre, à peine un mois et demi, après l'entrée à l'école. Et donc, ce sera une très belle idée cadeau, si je juge que c'est nécessaire. Mais, donc voilà, voilà pour les arguments. Après, je voudrais aussi vous parler du fait que nos enfants utilisent la technologie, ok ? Faut pas qu'on en ait peur, il faut pas qu'on les brime ou, j'ai envie de dire presque, qu'on restreigne l'utilisation des écrans ou des petites machines, appelez-les comme vous voulez, parce que ça fait partie intégrante de leur environnement. Vous savez, nous, si vous êtes de ma génération, en tout cas, née dans les années 80, nous, on n'avait pas de téléphone, bien sûr, on n'avait même pas d'ordinateur. Et la télévision, si on voulait regarder un dessin animé, c'était le matin à 8h15 ou 8h45 ou 16h30, et si on arrivait à 40, le dessin animé avait déjà commencé depuis 10 minutes. Ok, on choisissait pas. Aujourd'hui, nos enfants, ils connaissent même pas la télévision. Enfin, moi, mes enfants, déjà, bon, on en a pas. Enfin, maintenant, on en a une à Maurice parce qu'elle était déjà là, mais ils la regardent jamais. Mais je veux dire, moi, mes enfants, ils ont grandi sans télévision. C'est-à-dire sans devoir se dire, tiens, le dessin animé, il dure 20 minutes et c'est de 8h20 à 8h40. Moi, mes enfants, s'ils sont prêts à 8h40, ils regardent un dessin animé à 8h40. Si c'est à 8h43, ils le regarderont à 8h43 et ils feront commencer le dessin animé du début. Donc, c'est vrai que ils ont grandi avec ça, ils connaissent ça, ils savent qu'ils ont accès à ça, ils savent que c'est possible. Donc, leur empêcher d'utiliser les écrans, c'est contre-productif dans le sens où ça fait partie de leur vie. Ils vous voient les utiliser. Moi, mes parents, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas d'ordinateur portable. Ça n'existait pas, ils n'avaient pas de tablette. Moi, le premier ordinateur qu'on a eu, déjà, il n'était pas portable, c'était un ordinateur fixe, et j'avais 15 ans. Et c'était un ordinateur avec des disquettes. Vous voyez? Et une manette vieille comme je ne sais pas quoi, vieille comme l'an 1000, pour jouer à des jeux où c'était des genres d'arcade. Voilà avec quoi j'ai grandi. Donc évidemment que j'ai pas pu faire de mimétisme avec mes parents. Aujourd'hui, moi, mes enfants, ils me voient travailler sur l'ordinateur, ils me voient travailler sur mon téléphone. Le soir, ils me voient me détendre avec mon ordinateur ou mon téléphone. Enfin, ils nous voient. Donc c'est pas comment dire. Je peux pas leur dire non, vous les utilisez pas. Moi, je les utilise, mais vous les utilisez pas. Ça, c'est pas possible. Il faut que mon message, ou en tout cas mes attentes, soient cohérentes avec ma posture, avec ce que je fais et avec ce que je leur montre. Ça, c'est vraiment un de mes principes fondamentaux dans ma vie. C'est d'être aligné entre ce que je dis et ce que je fais. Et que pour moi, la posture éducative que j'ai, elle est directement corrélée avec ce que je fais. Et que je ne peux pas avoir un discours incohérent ou différent de ce que je fais moi-même. Et ça, c'est hyper important. Donc vraiment, ça, c'est le premier point sur lequel je ne peux que vous dire d'être vigilante et de mettre toute votre conscience là-dessus. C'est est-ce que vous avez des attentes, parfois même des requêtes, qui sont alignées avec ce que vous vous imposez vous-même, ou en d'autres termes, avec ce que vous faites vous-même. Parce que la notion d'imposition, elle peut être parfois péjorative ou assimilée en tout cas à quelque chose de négatif. Or, c'est pas du tout le cas. Pour moi, c'est de l'autodiscipline. Je vais pas me gaver de chocolat alors que mes enfants dorment. Non, si je veux manger du chocolat, ok, c'est après le repas et tout le monde en a un morceau. Parce que sinon, bah pour moi, c'est pas aligné. Bon bref, encore une fois, ça me regarde, mais pour moi, c'est vraiment très très important d'avoir cet alignement entre ce que je fais, ce que je dis et ce que je demande aux autres. Donc, tout ça pour en revenir au fait que, voilà, nos enfants nous voient utiliser des écrans. Donc, quand je dis écran, c'est ordinateur, tablette, téléphone, etc. C'est tout ce qui est petite machine, ou grosse machine d'ailleurs. Et donc, interdire à ses enfants d'utiliser les écrans, je trouve ça un peu stupide, dans le sens où, bah, si vous le faites, pourquoi ils le feraient pas? Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir leur donner un schéma d'utilisation conscient par rapport à ce qu'ils vont faire avec les écrans. Moi, par exemple, je sais que mes enfants aiment les écrans. Ils aiment l'outil. Vraiment, ils adorent les écrans. Ils les utilisent très bien, parfois mieux que moi. Encore une fois, parce qu'ils ont grandi avec et que du coup, c'est très intuitif pour eux. Et donc, ils aiment l'objet en lui-même. Et donc, par exemple, je sais qu'Arthur, parfois, pour écrire des rédactions, au lieu de les écrire sur une bonne vieille feuille avec un stylo plume, comme moi je faisais à mon époque, à ma vieille époque, comme ils le disent parfois mes enfants, je lui propose à Arthur d'écrire sa rédaction sur un Google Doc. Parce que je sais qu'il va être d'autant plus motivé à le faire qu'il aime l'outil qu'il utilise pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est hyper important. Donc, c'est vraiment, les écrans ont vraiment plusieurs utilisations et, comment dire, utiliser la puissance de cet outil, hein, utiliser l'appétence que nos enfants ont de cet outil, va permettre à nos enfants d'augmenter leur réalisation. Hein, en quelque sorte, c'est ça. Donc, encore une fois, ne soyons pas un peu réfractaire ou je sais pas quel est le mot, un peu, vous savez, non, pas d'écran, c'est pas bien, les écrans, c'est le diable, les écrans, ça coupe de la communication, les écrans, ça isole les uns des autres. Non, ayons plutôt une attitude et une posture d'ouverture, d'accueil et de réflexion intelligente en se disant comment est-ce que les écrans peuvent soutenir les apprentissages de mes enfants. Ok, par exemple, ils veulent regarder les écrans. Ok, mais moi j'en ai marre qui regarde Peppa Pig ou j'en ai marre qui regarde des vidéos Minecraft pour des enfants plus vieux ou des vidéos YouTube sur Minecraft. Oui, ça existe, des vidéos de gamers là. Ok, tu vas regarder un docu sur Tchernobyl, mon chéri. Voilà. Ou sur la Seconde Guerre mondiale. Ou sur le réchauffement climatique, vous voyez? Ou vous allez regarder un C'est pas sorcier sur, je sais pas quoi, les pompiers, la police, ou le thème que, ou les dinosaures, ou ce que vous voulez, mais vous allez regarder un truc qui va vous apprendre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est hyper important. Donc voilà, ça c'était un petit focus sur l'utilisation des écrans, parce que c'est important de pas forcément rester borné sur un truc, mais qu'au contraire, on peut utiliser les écrans à notre propre escient, en l'occurrence celui de nos enfants, mais le nôtre aussi. On peut vraiment nous aussi trouver un intérêt à ce que nos enfants les utilisent, notamment pour soutenir des apprentissages ou pour les inviter à faire des choses qu'ils ne feraient pas forcément ou qu'ils feraient à reculons ou de mauvais cœur. Hein. Donc voilà, le fait d'avoir ou pas un téléphone, ça reste un choix qui est personnel. Moi, honnêtement, j'ai une porte ouverte sur le fait de pouvoir offrir un téléphone à Arthur pour ses 12 ans, pour son passage en 6e, en d'autres termes, parce que peut-être que s'il est amené à prendre le bus scolaire, je serais bien contente de pouvoir savoir qu'il peut me contacter et moi aussi de pouvoir le contacter. Encore une fois, à ce moment-là, je pense que j'en ferai une utilisation très contrôlée, mais pas dans le sens péjoratif du terme, hein, pas dans le sens négatif, mais au contraire, dans le sens où je vais le conscientiser, en tout cas, lui apporter toute la conscience que j'ai par rapport à cette utilisation. Et voilà, je pense que ça se teste. Alors après, il y a la question, est-ce qu'on en fera un nouveau téléphone ou est-ce qu'on donne un ancien ? Ça, je ne sais pas encore. Peut-être que moi, je changerai de téléphone et que je lui donnerai le mien. Je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, bon, ça, c'est un sujet annexe et peut-être anecdotique. Quoique, c'est important dans notre schéma de consommation. Comment est-ce qu'on fait les choses ? Comment est-ce qu'on achète les choses ? Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant qui offre matière à réflexion. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire sur le téléphone portable et le fait que est-ce que nos enfants doivent en avoir. Moi, je pense que ça sert à rien d'en avoir trop jeune. Encore une fois, je me répète un tout petit peu là pour conclure, mais l'idée, c'est vraiment à partir du moment où l'enfant devient de plus en plus autonome, hein, et grandit dans sa quête d'autonomie et qu'on ne va pas pouvoir toujours être là pour répondre à son besoin, le téléphone devient un moyen d'être là, finalement, pour répondre à son besoin quand il a besoin de nous, hein, quand on n'est pas sur le même lieu, mais qu'il a besoin de nous. Voilà, ça peut être intéressant d'être là en support téléphonique, ou en tout cas d'être joignable. Ça peut aussi rassurer l'enfant, tout comme nous. Donc voilà, après, il existe des multitudes de petits forfaits, hein, ça peut être des forfaits prépayés, je dis pas d'avoir des gros forfaits, mais peut-être des forfaits qui permettent d'avoir un petit peu de data pour avoir au moins WhatsApp. Après, est-ce qu'il faut utiliser le téléphone dans sa fonction la plus pure, c'est-à-dire recevoir des appels ou non ? Ça, je ne sais pas, parce que maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font avec WhatsApp notamment, voire d'autres applications. Mais voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc écoutez, faites-vous votre propre avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez venir me dire si vos enfants en ont ou pas, ou ce que vous en pensez, notamment sur mon compte Instagram. Je suis très très réactive à mes messages sur Instagram. Si vous voulez me parler, c'est vraiment là où c'est le mieux, parce que je réponds à mes messages vraiment très régulièrement, quasiment tous les jours en fait. Bon, des fois je peux avoir un jour où je réponds pas, mais voilà, vous avez quand même des réponses sous un jour, deux jours ou trois jours grand maximum. Donc voilà, n'hésitez pas à venir m'en parler. Et puis, vous pouvez aussi venir me dire si vous avez des avis différents. Vous pouvez aussi partager ce podcast autour de vous. Alors, sur vos réseaux sociaux, bien évidemment, sur Instagram, là où il y a le plus de monde. Ce sera vraiment très important pour moi et pour la visibilité du podcast. Mais vous pouvez aussi tout simplement en parler, le recommander à des mamans que vous côtoyez ou des gens de votre famille. Ça reste toujours de très bonnes recommandations, de très bonnes prescriptions qui vont permettre à de nouvelles mamans de venir écouter le podcast. Et puis, bien sûr, si vous avez 3 minutes à consacrer au fait de laisser un petit message sur les plateformes de podcast que vous utilisez, sachez que je vous en serai reconnaissante à vie. Parce qu'évidemment que laisser des petits témoignages, des petits messages sur les plateformes de podcast, ainsi qu'une note la plus élevée possible, hein, pourquoi pas 5 étoiles, eh bien, c'est très, très important pour moi. Donc voilà, si vous voulez être un petit colibri aujourd'hui et contribuer, parce que le fait de contribuer rend heureux, donc si vous voulez vous rendre heureuse aujourd'hui, eh bien voilà, faites une bonne action en me laissant une note de 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire, et vous verrez que immédiatement vous ressentirez un profond sentiment de gratitude et d'avoir contribué, et tout ça va directement jouer positivement sur votre niveau de bonheur. Donc voilà, si vous voulez vous rendre heureuse aujourd'hui, vous savez quoi faire, vous me laissez un petit commentaire avec une note de 5 étoiles. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour prendre soin de ceux que vous aimez. Je vous embrasse.